ça a commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances.
Le football, il a changé.
Good morning tour. Bonjour à toutes et à tous, il est 7h15, vous êtes bien sur Radio Campus pour la matinale des étudiants de l'école de journalisme de Tours. Quel plaisir de vous retrouver sur les ondes après plus de 6 mois d'absence. Et oui, notre dernière diffusion date de mars dernier, une éternité. Qui dit nouvelle année dit nouvelle promotion de Master 1, vous en retrouverez certains dès les prochaines minutes. Au programme ce matin, nous accueillons deux nouvelles voix, Angelina Richard et Mathis Maudet présenteront les Flash Info. Ensuite, place au Flash Sport avec l'homme le plus élégant de France, Théo Leur, suivi de la traditionnelle chronique Asie de Camille Amara Betati et d'une nouveauté, la chronique USA de Théo Leur. Lou Attard, de son côté, nous parlera d'un photographe qui a joué un rôle dans l'affaire du petit Grégory. Et pour finir, Victoire Renard de Winter nous a concocté un reportage sur le loto du vendredi 13. Mais avant ça, place au Flash Info de la journée, présenté par Angelina Richard et Mathis Maudet. Vous êtes bien dans Good Morning Tour, il est 7h18.
La société japonaise ICOM a annoncé hier, après une enquête interne, qu'elle avait cessé de produire, je cite, il y a plus d'une dizaine d'années, les Tokiwoki soupçonnés d'avoir tué au moins 20 personnes et blessé 450 autres. Cela lors de la vague d'explosion qui a lieu mercredi au Liban. Elle a ajouté que les produits destinés au marché étranger étaient vendus exclusivement par les intermédiaires de ses distributeurs agréés.
Toujours à l'international, direction le Liban.
Selon l'AFP, le gouvernement allemand va mettre cette année à disposition de l'Ukraine une enveloppe de près de 400 000 euros d'aide militaire supplémentaire, a indiqué un courrier du ministère des Finances transmis jeudi aux députés. Cela malgré une situation budgétaire difficile. Cette enveloppe s'ajoutera aux 7,5 milliards de soutien déjà approuvés dans le budget 2024. L'Allemagne se place donc en deuxième contributeur après les États-Unis. Retour en France, après plus de deux mois sans gouvernement, on en sait enfin un peu plus.
Le nouveau gouvernement sera annoncé avant dimanche. C'est ce que Matignon a annoncé après que le Premier ministre Michel Barnier se soit entretenu hier soir avec Emmanuel Macron pour lui proposer son gouvernement. France Télévisions a eu la confirmation de certains noms mis sur la table. On pourrait retrouver Sébastien Lecornu aux armées, Rachida Dati à la culture ou encore Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Au total, Michel Barnier a proposé 38 ministres, dont 16 de plein exercice. Parmi eux, 7 macronistes, 7 républicains, 2 modem, 1 horizon, 1 UDI, 1 divers droite et 1 divers gauche. Nouvelle journée sous tension au tribunal d'Avignon.
Le procès Mazan continue et hier, 2 des 51 co-accusés ont été entendus devant la cour criminelle d'Avignon. L'audience a démarré avec Lionel R, 44 ans, qui a tout de suite confirmé qu'il reconnaissait les faits de viol commis le 2 décembre 2018 sur Gisèle Pellicot, alors qu'elle était droguée à son insu par son mari Dominique Pellicot. Une autre actualité judiciaire, on en sait plus sur la disparition de Lina.
Et oui, nouveau rebondissement dans cette affaire de kidnapping. Le procureur a indiqué ce jeudi 19 septembre de nouvelles avancées dans l'enquête. Selon lui, le principal suspect Samuel Gonin, qui s'est donné le 10 juillet dernier la mort, a sans doute enlevé et peut-être tué Lina le 23 septembre dernier. Pour cause, l'ADN de l'adolescente avait été retrouvé dans la voiture volée et conduite par cet ancien enseignant de 43 ans. À ce jour, le corps de Lina n'a toujours pas été retrouvé.
Une autre affaire judiciaire s'est ouverte hier.
Le chanteur Gims accuse Booba de harcèlement moral et de cyberharcèlement. Une enquête est ouverte, a annoncé le parquet de Paris ce jeudi 19 septembre. Les avocats de Booba ont de suite réfuté, je cite, « toute accusation de harcèlement » et réservent leurs explications à la justice. Pour eux, je cite, « il serait inquiétant pour la de l'état de droit que des créations artistiques puissent faire l'objet de poursuites pénales, de surcroît du chef de harcèlement moral. Sur X, anciennement Twitter, Booba a réagi avec dédain et humour à cette manœuvre.
Merci Angelina Richard et Mathis Maudet pour ce Flash Info. On retrouve maintenant Camille Amara Betati pour la chronique Asie.
Le Japon a été frappé par un tremblement de terre et un raz-de-marée.
China's a one-party state.
Il n'y a pas de multipartisme avec Taïwan parce que ce n'est pas un État-nation.
I don't think anyone would call it a democracy.
Bonjour Camille, qu'est-ce qu'on a loupé cet été en Asie ?
Bonjour Baptiste, aujourd'hui on va parler du Bangladesh qui a été marqué cet été, le 14 août, par le renversement de la première ministre Sheikh Hasina. un événement déclenché par un large mouvement étudiant mené par la coalition Students Against Discrimination. Ce mouvement, né sur le campus de l'université de Dhaka, s'est initialement mobilisé contre les quotas discriminatoires dans la fonction publique qui ont été instaurés en 2023. La particularité de ces quotas est qu'ils avantagent les descendants des combattants de la guerre d'indépendance et les partisans de la Ligue Awami, le parti au pouvoir. S'en est suivi des manifestations d'une rare violence qui se sont tenues dans la capitale, puis qui ont pris rapidement une ampleur nationale suite au décès d'un étudiant tué par un policier lors d'un affrontement. La révolte s'est donc étendue bien au-delà des revendications initiales, transformant la capitale du pays aux couleurs de la révolution.
Et qu'est-ce qui s'est passé après, Camille ?
La gestion provisoire du pays a été confiée à un gouvernement temporaire dirigé par Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix, épaulé par des membres de la société civile et des étudiants. Leur tâche principale est de réformer les institutions. Ce soulèvement symbolise le rejet de l'autoritarisme, notamment de la Ligue Awami, en réponse à une jeunesse dévastée par le chômage de masse et la répression. Ce gouvernement provisoire n'a qu'une légitimité morale et les partis traditionnels risquent de reprendre rapidement le pouvoir, posant la question de la pérennité de cette révolution.
Et pourquoi on en reparle aujourd'hui ?
Depuis cette gestion provisoire mise en place, le gouvernement intérimaire cherche le soutien des États-Unis pour reconstruire son pays en crise. Les relations entre les deux pays étaient jusqu'à présent tendues, notamment à cause des sanctions américaines contre des unités paramilitaires bangladaises pour violation des droits humains. Or, la récente visite d'une délégation du Trésor américain dirigée par Brent Neyman a marqué un tournant diplomatique. Les États-Unis se sont engagés à fournir une assistance technique et financière, avec notamment un accord de 200 millions de dollars. Cette aide intervient alors que le Bangladesh, autrefois modèle économique, lutte avec des réserves de change insuffisantes et une industrie textile perturbée par des soulèvements. Le Bangladesh est en retard dans le paiement de près de 500 millions de dollars qu'il doit au groupe électrique Adani. Cette nouvelle orientation diplomatique reflète aussi un réalignement géopolitique du Bangladesh qui était historiquement proche de l'Inde en faveur des États-Unis.
Merci Camille Abarabetati pour ces explications. Il est 7h23, vous êtes toujours sur 99.5 FM. On marque tout de suite une première respiration musicale avec Last Day on Earth de Ty Verdes.
If it was my last day on earth, if it was my last day, if I close my eyes and the sun don't rise, would I be okay? If it was my last day on earth, if it was my last day, if it was my last day on earth, I wouldn't be in church. I'm sorry, God, but it's my last day in this universe. I need to see birds and buzzing bees, green grass, evergreen trees. I'm seeing people who have been mean to me. And why would I waste my time? All my favorite people need teary-eyed goodbyes. Talk, laugh, hug, and give a bunch of hard high fives. I did my best, man. I gave this thing a good
try. If it was my last day on earth, if it was my last day, if it was my last day on earth, if it was my last day, if I close my eyes and the sun don't rise, would I be okay? If it was my last day on earth, if it was my last day.
Wait, 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 it's telling me I got 24 of these 60-minute things left. Damn, I ain't get to be a billionaire yet. Fly around first class, private jet flex. Use a black Amex, get up out the duplexes. Buy a Lexus, take a road trip to a spaceship. And I'ma get on, bounce up in the sky and I'ma get gone. Gave up too much just to see one more dawn.
If it was my last day on earth, if it was my last day, yeah. If it was my last day on earth, if it was my last day, I close my eyes and the sun don't rise, will I be okay? If it was my last day on earth, if it was my last day.
Yeah.
vous écoutez toujours Radio Campus Tours, il est 7h26, l'heure d'accueillir Théo Leur pour le Flashport, avec on espère des nouvelles de l'EPJTFC. Bonjour Baptiste et bonjour à toutes et à tous à la une de l'actualité sportive de ce vendredi 20 septembre 2024. Les clubs français très en forme en Ligue des Champions. En ce début de semaine, 4 clubs français s'illustraient dans la plus grande compétition européenne. Si Lille a ouvert le bal mardi par une défaite 2-0 chez le Sporting Portugal, les autres équipes se sont imposées. Mercredi, le Paris Saint-Germain a arraché la victoire contre Gérone grâce à une bourde du gardien adverse. Hier, Brest s'est imposé contre Sturm Graz pour sa première en C1 et surtout hors de son stade puisque les Brestois jouaient au Roudourou à Guingamp. De leur côté, les Monégas se sont offerts nul autre que le FC Barcelone à domicile 2-1 sur cette première série de matchs en Ligue des Champions. À noter également le premier match de Kylian Mbappé avec le Real Madrid mardi, remporté largement 3-1 en fin de rencontre et dans lequel il a inscrit le premier but. La Ligue professionnelle de football lance une campagne pour, je cite, « valoriser le football à la française ». Vincent Labrune avait promis 1 milliard d'euros de droits télé. Finalement, la LFP n'a eu que 500 millions. De quoi inciter le président de la Ligue à lancer une série de vidéos pour souligner les spécificités du football hexagonal. Un nouveau trophée et une nouvelle charte musicale et sonore vont suivre, entre autres. Nous avons fait le choix de jouer sur nos différences, d'axer sur la diversité des territoires, des ferveurs, des cultures, comme moteur de l'excellence, a-t-il annoncé. L'idée derrière tout ça est bien sûr de redorer l'image du championnat de Ligue 1 et d'augmenter les droits télé. Le PSG handball humilié en Ligue des Champions hier soir. Les Hongrois étaient trop forts et surtout les Parisiens n'ont pas existé. Ils se sont inclinés sur le score lourd de 41-28, la faute à un moment de moins bien en deuxième période, qui n'a pas pardonné face à Veszprém. Avec ce revers, les coéquipiers de Luka Karabatic montrent des signes de fébrilité en ce début de saison. Après 13 ans à l'étranger, le volleyeur Erwin Engapet a signé à Poitiers. Dans un championnat de France pourtant déserté par les internationaux tricolores, le réceptionneur attaquant des Bleus a été présenté jeudi dans la Vienne. Il était libre depuis fin mai de son contrat avec l'Agbank Ankara et signe donc dans son club de cœur. Le double médaillé olympique avec l'équipe de France a tout de même nuancé au micro de France Bleu Poitou. Je cite « Je me laisse la possibilité, si quelque chose se passe, de partir à la fin du mois de décembre. Ce qui est sûr à 100%, c'est que pour toute la phase aller, je serai là. » Fin de citation. Et puis enfin, des nouvelles bien sûr de l'EPJTFC, une belle reprise pour l'équipe masculine de l'EPJTFC en amical hier soir. Si dans ces matchs amicaux, le score est souvent anecdotique, la ferveur et l'envie sont importantes. De qualité présente sur le terrain de la Vallée du Cher, où les joueurs de l'EPJT se sont inclinés malgré les réalisations de Martin Collat et Julian Schneider.
Merci Théo, et on rappelle que le tournoi Inter-École de Journalisme se déroulera à Cannes cette année, le 29 mars, grâce à leur victoire qu'ils ont obtenue lors du dernier tournoi à Grenoble. Vous êtes toujours sur Radio Campus, 99.5 FM, il est 7h29, Lou Attard est en train de nous rejoindre en studio. Aujourd'hui, elle nous parle d'un photographe qui a joué un rôle dans l'affaire du petit Grégory.
Vous ne connaissez sûrement pas son nom, Gilbert Bernard. Pourtant, ce photographe a laissé une trace indélébile dans une des plus grandes tragédies françaises, celle du petit Grégory. Il est l'auteur de la photo emblématique du petit garçon et après des années de silence, il revendique enfin en être l'auteur. Pour le journal Vosges Matin, il est revenu sur les coulisses du célèbre portrait du garçon retrouvé sans vie dans les eaux glacées de la Vologne. Sur un fond bleu azur, épaules en biais, Grégory Villemin regarde l'objectif. Un demi-sourire espiègle aux lèvres, ses cheveux bruns en bataille. De sa main gauche, il serre son petit doigt. Son pantalon côtelé marron est typique des années 80. Son pull gris lui donne l'air d'un enfant modèle. Cette photo est gravée dans nos mémoires. Impossible de penser à un autre cliché quand on songe à l'affaire Grégory. Photographe depuis l'adolescence, Gilbert Bernard se spécialise dans les portraits d'enfants. Il en réalise plus d'une centaine dans toute la France. Après des années de carrière itinérante, le photographe décide de poser ses valises en Lorraine. Il passe de supermarché en supermarché avec son icône FM2, ses deux lampes flash et son fond. Il explique « Je proposais des séries de 6 photos format 13 sur 18, j'offrais la 7e ». En juin 1984, le photographe s'installe au Maxi Coupe de Bruyères dans les Vosges. Un petit garçon de 4 ans pose pour lui, un visage d'ange. Il est accompagné de sa nourrice Christine Jacot. Le photographe se rappelle d'un garçonnier appliquant soigneusement les poses qu'on lui indiquait. Les photos développées, la nourrice ne vient pas les chercher. Quand le photographe les dépose chez elle, à l'éponge, il ne sait pas, mais ce sont les photos d'un enfant mort. 4 mois plus tard, ce cliché du petit Grégory fera la une de tous les journaux. Alors que le nom du jeune garçon tourne en boucle dans les médias, Gilbert Bernard se souvient alors immédiatement. Ce nom, il l'avait marqué sur l'enveloppe contenant les négatifs. Ce jour-là où Maxi coupe, il a photographié peu d'enfants. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais revendiqué en être l'auteur. Pourquoi ? Il trouvait alors indécent de se faire de l'argent sur le dos d'un petit enfant, mais il avoue aussi avoir souvent oublié de signer ses photos. Un photographe resté dans l'ombre trop longtemps contre un enfant qui a rejoint les ténèbres trop vite.
Merci Louattard pour cette chronique. On fait un petit point sur la météo de la fin de semaine. Aujourd'hui, le temps est plutôt nuageux ce matin avec jusqu'à 14 degrés attendus. La température remonte dans l'après-midi jusqu'à 21 degrés. Attention tout de même au risque d'orage au long de l'après-midi et de la soirée. En ce qui concerne samedi et dimanche, la pluie fait son retour toute la journée, mais pas de quoi freiner les participants des 10 km de tour, dont certains et certaines sont dans notre studio ce matin. Courage! Il est 7h32, à présent je vous propose de respirer quelques instants avec de la musique. On s'écoute Weird Fishes de Radiohead.
Thank you.
venez d'écouter Weird Fishes de Radiohead, toujours sur 99.5 FM. Il est 7h38, l'heure du deuxième flash info du jour. Angelina Richard et Mathis Maudet, c'est à vous.
La société japonaise Icom a annoncé hier, après une enquête interne, qu'elle avait cessé de produire, je cite, « il y a plus d'une dizaine d'années, les Tokiwoki soupçonnaient d'avoir tué au moins 20 personnes et blessé 450 autres. Cela lors de la vague d'explosion qui a eu lieu mercredi au Liban. » Elle a ajouté que les produits destinés au marché étranger étaient vendus exclusivement par les intermédiaires de ses distributeurs agréés.
Toujours à l'international, direction le Liban.
Selon l'AFP, le gouvernement allemand va mettre cette année à disposition de l'Ukraine une enveloppe de près de 400 millions d'euros d'aide militaire supplémentaire, a indiqué un courrier du ministère des Finances transmis jeudi aux députés. Cela, malgré une situation budgétaire difficile. Cette enveloppe s'ajoutera aux 7,5 milliards de soutien déjà approuvés dans le budget 2024. L'Allemagne se place donc en deuxième contributeur après les États-Unis. Retour en France, après plus de deux mois sans gouvernement, on en sait enfin un peu plus.
Et oui, le nouveau gouvernement sera annoncé avant dimanche. C'est ce qu'a annoncé Matignon après que le Premier ministre Michel Barnier se soit entretenu hier soir avec Emmanuel Macron pour lui proposer son gouvernement. France Télévisions a eu la confirmation de certains noms mis sur la table. On pourrait retrouver Sébastien Lecornu aux armées, Rachida Dati à la culture ou encore Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Au total, Michel Barnier a proposé 38 ministres, dont 16 de plein exercice. Parmi eux, 7 macronistes, 7 républicains, 2 modems, 1 horizon, 1 UDI, 1 divers droite et 1 divers gauche. Nouvelle journée sous tension au tribunal d'Avignon.
Le procès Mazan continue et hier, 2 des 51 co-accusés ont été entendus devant la cour criminelle d'Avignon. L'audience a démarré avec Lionel R, 44 ans, qui a tout de suite confirmé qu'il reconnaissait les faits de viol commis le 2 décembre 2018 sur Gisèle Pellicot alors qu'elle était droguée à son insu par son mari Dominique Pellicot. Une autre actualité judiciaire, on en sait plus sur la disparition de Lina.
Nouveau rebondissement dans cette affaire de kidnapping. Le procureur a indiqué ce jeudi 19 septembre de nouvelles avancées dans l'enquête. Selon lui, le principal suspect Samuel Gonin, qui s'était donné la mort le 10 juillet dernier, a sans doute enlevé et peut-être tué Lina le 23 septembre dernier. Pour cause, l'ADN de l'adolescente avait été retrouvé dans la voiture volée conduite par cet ancien enseignant de 43 ans. À ce jour, le corps de Lina n'a pas été retrouvé.
Une autre affaire judiciaire s'est ouverte hier.
Le chanteur Gims accuse Booba de harcèlement moral et de cyberharcèlement. Une enquête est ouverte, a annoncé le parquet de Paris ce jeudi 19 septembre. Les avocats de Booba ont réfuté, je cite, « toute accusation de harcèlement » et réservent leurs explications à la justice. Pour eux, je cite, « il serait inquiétant pour l'avenir de l'État de droit que des créations artistiques puissent faire l'objet de poursuites pénales, de surcroît du chef de harcèlement moral ». Sur X, anciennement Twitter, Booba a réagi avec dédain et humour à cette manœuvre.
Merci à vous deux pour ce flash info. Il est 7h41, J-46 avant l'élection du 47e président des États-Unis. Ce matin, Théo Leur et Lucas Go nous emmènent de l'autre côté de l'océan Atlantique et plus particulièrement au dernier meeting de Donald Trump, mardi dernier à Long Island dans l'État de New York.
En effet, Baptiste, Donald Trump a tenu son premier meeting après la deuxième tentative d'assassinat qui a touché l'ancien président des États-Unis le 15 septembre dernier, donc dimanche dernier. Le lieu, New York, vous l'avez dit, pas le meilleur endroit pour le républicain dans un État remporté à 60% par les démocrates en 2016 et en 2020. Malgré la maigre perspective de victoire, Donald Trump est bien sûr venu et a tenu à rappeler qu'il voulait prendre cet État démocrate. Il a surtout profité de ce moment pour dérouler sur les éléments clés de sa campagne avec cette phrase qui a beaucoup fait réagir les commentateurs américain, je cite, dans les deux prochaines semaines, je vais aller à Springfield et à Aurora. Vous ne me reverrez peut-être plus jamais, mais ça va aller, je dois faire ce que j'ai à faire. Fin de citation. Pourquoi ces endroits sont si dangereux, me demanderez-vous? Eh bien, tout simplement parce que les équipes de campagne des Républicains et Trump lui-même ont partagé des fake news qui circulaient sur Internet. Springfield, c'est dans l'Ohio, et selon Trump, des immigrés haïtiens y mangeraient des animaux de compagnie. Aurora, c'est dans le Colorado, et selon les Républicains, des gangs de Vénézuéliens, donc des immigrés toujours, auraient pris le contrôle de la ville. La seule part de vrai dans ces histoires, eh bien, de simples problèmes de délinquance à Aurora.
Et à part l'immigration et les mensonges, le milliardaire a-t-il expliqué autre chose? Dites-nous, Lucas.
En tout cas, il n'a pas fait preuve de modestie. Fidèle à lui-même, l'ancien président s'est de nouveau comparé à Jésus, comme après sa première tentative d'assassinat le 14 juillet dernier. Une comparaison audacieuse, puisque je rappelle qu'il est inculpé dans 4 affaires criminelles et accusé pour pas moins de 88 chefs d'accusation distincts. Sauvé de la main de Dieu donc, Trump en est en tout cas convaincu. Il affirmait dans son meeting, je cite, « On essaye de se concentrer sur ce qui compte et Dieu m'a maintenant sauvé la vie. Ça devait être Dieu, pas une fois, mais deux fois. Et certains disent qu'il l'a fait pour que Trump, transforme l'état de New York. Il va rendre l'Amérique grande de nouveau et peut-être que nous pourrons ramener la religion dans notre pays. Reste à savoir si son slogan « Make America Great Again » restera aussi puissant à l'heure du bilan de son premier mandat. Pour ce qui est de la religion, c'est l'occasion de débunker une idée. Non, les présidents américains ne sont pas obligés de prêter serment sur la Bible. L'État américain est laïque. Les présidents prêtent serment sur ce qu'ils souhaitent.
Justement, Lucas, deux présidents ne l'ont pas fait dans toute l'histoire des États-Unis. John Quincy Adams au début du 19e siècle et Theodore Roosevelt au début du 20e siècle. Mais donc pourquoi les autres présidents prêtent serment sur la Bible? Et bien tout simplement par tradition, parce que le premier président, George Washington, l'avait fait.
Bah, en tout cas, merci Théo pour cette anecdote. Mais on retourne à 360 km de New York. Kamala Harris, la candidate démocrate, était aussi en campagne mercredi à Washington. Elle n'a d'ailleurs pas ménagé son opposant républicain. Elle a rappelé les milliers d'enfants qui avaient été séparés par leurs parents, de leurs parents à la frontière mexicaine sous sa première mandature. Lors de leur dernier débat il y a 10 jours, Trump a promis des déportations massives de migrants clandestins s'il est élu. Une crainte rappelée par la candidate Harris sous ces termes. Nous nous souvenons tous de ce qu'ils ont fait pour déchirer les familles. Comment cela va-t-il se passer? Des raids massifs, des campagnes de détention massifs, de quoi parle-t-il?
En pleine campagne, les deux candidats doivent maintenant convaincre les swing states, ces états où les résultats sont traditionnellement serrés, s'ils espèrent remporter l'élection.
Merci à vous deux pour cet éclairage. Vendredi dernier, c'était un vendredi un peu spécial, un vendredi 13. Pour les superstitieux, c'est un jour bien particulier. Chance ou malchance, la Fédération Française des Jeux en a fait son pari. Dans les bureaux de tabac, les joueurs tentent leur chance. Victoire Renard de Winter en a rencontré quelques-uns à Tournor, amateurs ou habitués, qui sont les 5 millions de joueurs recensés par la
Super
FDJ.
Loto, une grille.
Ouais. Une grille de Super Loto pour Stéphanie. Pourtant, elle n'est pas habituée aux jeux d'argent et de hasard.
Si. Que j'ai vu les affiches, oui, des millions dans tous les sens, donc on en veut. On est le vendredi 13, effectivement, mais c'est pas lié à ça, c'est parce qu'il y a une grosse cagnotte ce jour-là, c'est pas du tout par superstition.
Les habitants du quartier viennent nombreux tenter leur chance aujourd'hui, dont Nabil, un joueur quotidien.
Là, je gratte et puis après, je le passe dans la machine.
Bah, on sait pas, hein, le 13, si ça porte bonheur ou malheur. Il y en a qui disent que ça porte malheur.
Bah, pour le moment, c'est rien du tout. Hein. C'est pour ça que c'est pas le vendredi 13 qui va apporter quelque chose d'autre. Après, oui, parce qu'ils ont fait un jeu spécial, un loto spécial pour le vendredi 13.
Entre loto, euro-million et jeux à gratter, Isabelle, la gérante du lieu, a vu plus de clients ce vendredi 13.
Il y a plus de gens qui, d'habitude, ne prennent pas de tickets à gratter, mais là, qui en prennent, et des clients qui viennent prendre des jeux à gratter, mais qu'on n'a jamais vus.
Hein. Et certains, comme Serge, se lancent même pour la première fois.
Et là, on y va. Mais je crois que je suis un peu influencé par le 13 quand même.
Superstition ou prétexte, 2 à 3 fois plus de joueurs tentent leur chance les vendredis 13.
Merci Victoire pour ce reportage. Il est déjà 7h46 sur Good Morning Tour et c'est déjà la fin de la première matinale de l'année. Merci à nos auditeurs du jour pour nous avoir suivis et je salue notre équipe. Angelina Richard, Mathis Maudet, Théo Leur, Lucago, Lou Attard, Victoire Renard de Winter et Camille Amara Betati. Je rends l'antenne, le rendez-vous est pris. On se retrouve vendredi prochain à la même heure, 7h15, sur Radio Campus Tours. Agréable journée à toutes et à tous.